Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec l'équipe de l'heure du crime. Bernard Gic, Thierry Defay, Thibault Le Floch, Florian Martin et Perrine Suquet. C'est Caroline qui est près de moi. Bonjour.
Bonjour Jacques.
Et qui nous accompagne jusqu'à 15h. Vous pouvez participer à l'émission, vous le savez, le standard pour les coups de téléphone, c'est le 3210. Et si vous préférez nous envoyer un courriel, vous allez sur le site rtl.fr, vous cherchez la rubrique « Les émissions ». Dans les émissions, vous avez l'heure du crime, bien sûr, dans la grille de programme. Et vous cliquez sur « Participer » et vous aurez peut-être des choses à nous dire ou des questions à poser à mes invités à propos des tueurs fous du Brabant. Car nous revenons effectivement aujourd'hui sur une histoire criminelle qui a créé en Belgique une véritable psychose dans les années 80, une bande de mystérieux malfaiteurs qui a semé la mort et la terreur en deux vagues successives d'attaques de supermarchés, mais aussi d'armureries, de bijouteries et même de restaurants. La presse belge les avait surnommés les tueurs fous du Brabant. Entre 1982 et 1985, ils ont laissé derrière eux 28 morts et des dizaines de blessés. Et 27 ans après les premières attaques, on se demande encore qui sont les auteurs de ces massacres d'une cruauté incroyable, de simples braqueurs extrêmement déterminés ou des terroristes prêts à tout pour déstabiliser l'État belge. La question se pose et une nouvelle piste française est actuellement relancée par la justice belge. C'est pourquoi nous avons organisé cette émission. On va faire le point sur cette enquête au long cours avec deux journalistes, Marc Maître de Penningham du journal Le Soir de Bruxelles. Bonjour.
Bonjour.
Et Brendan Kemet de France Soir. Bonjour.
Bonjour.
Nous aurons également en ligne tout à l'heure le commissaire divisionnaire Joël Speck, le chef de la PJ de Lille, et la juge d'instruction de Charleroi en charge de l'affaire. C'est elle qui relance cette piste française. On en parlera également avec le chef de la cellule d'enquête belge Brabant Wallon, Eddy Vos, et ils nous diront pourquoi ils considèrent que cette piste française peut être crédible. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Alors, Marc Maître de Penningham, d'abord, peut-être un mot sur cette psychose que j'évoquais à l'instant. Est-ce que le traumatisme reste encore vivace aujourd'hui en Belgique à propos de cette affaire ?
Il demeure profondément présent. La cellule d'enquête qui a été créée il y a, au moment des faits n'a pas disparu. Elle vient de bénéficier de l'apport d'enquêteurs supplémentaires. De nouvelles fouilles ont été organisées dans des canaux, dans des bois. Le commissaire Voss vous en parlera très certainement.
Pour tenter de retrouver éventuellement le cadavre d'un des membres de la bande.
C'est ça, retrouver le cadavre du chef de la bande que l'on croit avoir été abattu lors de la dernière attaque attribuée à cet tueur fou du Brabant. Ouais. Donc c'est l'élément matériel, l'élément d'identification qui permettrait de remonter le fil de cette pelote jusqu'à présent inextricable. Ouais.
Parce que quand on parle de psychose, il y a un moment où les gens hésitaient à aller faire leurs courses au supermarché. Hein,
le vendredi soir, qui était le jour préféré des tueurs, était quasiment un jour interdit, une heure, une plage horaire interdite pour les clients belges de ces supermarchés. Ça s'est doublé évidemment avec le passage à l'acte des terroristes d'extrême gauche, donc des cellules communistes du Brabant. Il y avait un climat de terreur généralisé dans la rue, dans les magasins. Ouais. Et je crois que le pays, la Belgique, en garde toujours ce souvenir et a surtout le désir que l'équipe de M. Vos et que Mme Michel résolvent enfin cette affaire avant la prescription qui va intervenir d'ici 2015.
Ouais. Alors, Brendan Kemet, en fait, cette émission, c'est à cause de vous que je l'ai fait, parce que j'ai lu un de vos articles dans François, très récemment, où vous évoquiez cette piste française. Vous suivez l'affaire, vous aussi, depuis longtemps ?
Moi, j'ai des souvenirs, surtout d'adolescent, d'ailleurs, d'avoir traversé la Belgique dans les années 85-86, d'ailleurs, mon père qui me disait... on n'avait pas la peur au ventre, hein, mais il y avait quand même
une inquiétude,
quelque chose. Ouais. Donc moi, je me souviens bien de ça, finalement, et de cette affaire. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'est l'évocation en Belgique d'une piste française, quoi, qui est peut-être pas complètement nouvelle, mais peut-être pas prioritaire, mais qui est en tout cas sérieusement envisagée.
Ouais. C'est peut-être les dernières cartouches que tirent les enquêteurs. En fait.
On a l'impression, vu de France, que tout ce qui a été fait, beaucoup de choses ont été faites en Belgique et peut-être on n'a pas trouvé la vérité en Belgique, alors peut-être qu'on la cherche ailleurs, chez les voisins.
Quoi. Ouais. Mais d'une certaine manière, on va découvrir pourquoi je dis ça dans un instant, ça bouclerait la boucle, parce que avant de donner la parole aux policiers français et belges qui ont travaillé sur cette enquête, on va rappeler comment tout a commencé en France en été 1982.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Nous sommes à Maubeuge, le 13 août 1982, au cœur de l'été. Une épicerie de la ville est la cible de plusieurs cambrioleurs. Prévenus par un appel anonyme, la police envoie une patrouille sur place. Les cambrioleurs ouvrent immédiatement le feu. L'un des policiers est blessé et les malfaiteurs réussissent à prendre la fuite en direction de la Belgique. Ils ont pris le temps quand même d'emporter avec eux un butin étrange, quelques boîtes de thé et quelques bouteilles de vin. Le 30 septembre suivant, mais cette fois en Belgique, une armurerie de Vavre est braquée en plein jour par deux hommes qui pénètrent dans cette boutique à visage découvert. Un passant voit la scène depuis la rue, il alerte aussitôt un policier communal qui s'approche de l'armurerie. Le chauffeur de la voiture qui attendait les braqueurs devant la boutique abat ce policier d'un coup de revolver à bout portant. Il meurt sur le coup et les tueurs prennent la fuite. Ils sont alors poursuivis par une patrouille de la gendarmerie. À nouveau, sans la moindre hésitation, ils ouvrent le feu, ils blessent grièvement deux des gendarmes. Et ces deux gendarmes diront par la suite aux enquêteurs qu'ils ont eu le sentiment que ceux qui leur tiraient dessus étaient des collègues, c'est le mot qu'ils ont employé, à cause de la façon, disent-ils, dont ils tenaient leurs armes. La voiture utilisée par les tueurs sera d'ailleurs retrouvée quelque temps plus tard, abandonnée dans une forêt proche de Bruxelles, et les enquêteurs vont y découvrir plusieurs éléments matériels, dont une mystérieuse carte de stationnement jamais identifiée à ce jour. Nous sommes maintenant dans la nuit du 23 décembre 1982 à Bercelles, où se trouve un restaurant très connu, l'Auberge des Chevaliers. C'est un restaurant qui est tout près d'un château féodal. À 7h de la nuit, seul le concierge de l'auberge se trouve encore à l'intérieur. Deux personnes frappent à la porte. Ce sont les tueurs de l'armurerie de Vavre. Le concierge leur ouvre, il l'emmène aussitôt à l'étage. On retrouvera le malheureux ligoté sur son lit. Il a été longuement torturé avant de recevoir 6 balles de revolver en pleine tête. Et les tueurs, ce jour-là, cette nuit-là, ont pris le temps de disparaître, ont pris le temps de manger, pardon, sur place et de boire du champagne avant de disparaître. Le 10 janvier suivant, 1983, à Mons, cette fois, la police belge retrouve le corps d'un chauffeur de taxi d'origine grecque dans le coffre de sa voiture abandonnée depuis quelques jours dans une rue calme de la ville. Et les enquêteurs constatent que cette victime a été assassinée de la même façon que le concierge de l'Auberge des Chevaliers et avec la même arme.
14h-15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Alors peut-être Marc Maître de Penningham, faut-il retracer à grands traits la suite de l'histoire, parce que les choses vont s'accélérer après ce que je viens de rappeler à l'instant, et les attaques de ce groupe criminel inconnu vont se focaliser sur, comme on le disait, sur des supermarchés, au tel point que les gens hésitent à aller faire leurs courses.
Au départ, ce sont des attaques plutôt qui se soldent par peu de morts, mais en mort, c'est déjà en mort de trop, bien évidemment. Oui. Le plus grand nombre de victimes, les massacres, comme on a pu qualifier le périple des tueurs du Brabant, ça interviendra dans la deuxième phase à partir de 1985.
Oui. On a parlé du massacre des innocents dans la presse à l'époque.
Tout à fait, mais là, dans cette première phase, donc, qui va s'achever en décembre 83, on retrouve des attaques perlées avec 2-3 morts, oui. Des gens qui se trouvent par hasard à une station d'essence, alors que des cambrioleurs essayent de pénétrer en grands magasins pour y emporter encore une fois du café pour des butins ridicules. Ouais. Et là, il n'y a qu'une clé de compréhension, mais c'est qui relie ces affaires entre elles, c'est non seulement des véhicules, des armes, des modus operandi, qui permettent de croire que.
Ce qui fait que les enquêteurs font le fil, quoi. Relient toutes ces affaires entre elles.
Logiquement, hein. Ils font le fil sans avoir jamais pu identifier un seul des auteurs, pas une trace, pas une empreinte, pas un témoignage du milieu criminel qui ne leur est arrivé.
Et alors, après cette première vague, il y a quasiment 2 ans où on n'entend plus parler de ces gens-là, et 85, ça repart, alors.
C'est l'un des grands mystère de cette affaire. Pourquoi En décembre 83, après l'attaque dans bijoutier de la commune d'Anderlu, ça fait 2 morts. Mmh. Pourquoi s'arrêtent-ils à ce moment-là? Pourquoi prennent-ils leur retraite pendant 2 ans? Retraite entre guillemets, et c'est peut-être pas le moment de parler des retraites pour la période qui court. Mais ces gens ont-ils été arrêtés? Sont-ils partis à l'étranger, commettre d'autres délits sur un autre territoire? Ont-ils été emprisonnés à ce moment-là? Ouais. Il y a un mystère, théoriquement des braqueurs qui recueillent de petits butins, doivent évidemment se réalimenter. Ouais. Et là, il faut constater qu'ils ont décidé d'arrêter. Leur a-t-on demandé d'arrêter? L'ont-ils fait volontairement? Ou ont-ils été contraints par les circonstances de le faire? On n'a jamais eu un témoignage qui permettrait d'expliquer.
Et puis on peut ajouter une autre question, mais celle-là je vais la poser dans un instant à la magistrate de Charleroi.
Qui est bien plus qualifiée que moi pour vous répondre.
Et au chef de l'enquête actuelle de la cellule Brabant. C'est pourquoi lors de cette vague de 1985 il y a une escalade dans la violence, et là on compte les morts par dizaines. Réponse dans un instant après cette pause.
L'heure du crime sur RTL.
Les tueurs fous du Brabant, donc nous revenons sur ce dossier dont on avait évidemment beaucoup parlé en Belgique, certainement l'affaire peut-être criminelle la plus extraordinaire qui soit passée dans ce pays. Il faut rappeler quand même 28 morts, un bilan vraiment tragique et des dizaines de blessés. Je crois que l'enquête, c'est des dizaines et des dizaines de cartons de dossiers. Marc Maître de Penningham, vous me disiez, il y a 3 millions de pièces, hein, c'est ça?
C'est globalement...
De la police, quoi, hein, oui. Entre les interrogatoires, les constatations.
J'avoue, je ne les ai pas comptées.
Alors peut-être que Madame Martine Michel, qui est procureur de Charleroi.
Juge d'instruction.
Qui est juge d'instruction à Charleroi, qui est en charge de cette affaire, va nous le confirmer. Bonjour Madame.
Oui, bonjour Monsieur.
Et merci beaucoup d'accepter de faire le point sur cette affaire vraiment ténébreuse. Vous êtes en charge de cette affaire et vous avez décidé de la relancer. On en parlera dans un instant sur cette piste française. Mais peut-être un mot d'abord. Sur le fait que, la police et la justice belge sont têtues.
Oui.
Parce que ça fait 25 ans que ça dure et que donc vous pensez que vous allez aboutir?
Oui, je pense que je vais aboutir, parce que sinon je ne travaillerai pas. Hein. Je vais dire, je ne travaille pas dans le vide.
Oui.
Et vous dites, nous sommes têtus, mais c'est vrai qu'il y a de nombreux magistrats, de nombreux policiers qui ont travaillé dans ce dossier. Donc, il y a une volonté, évidemment, de travailler avec professionnalisme jusqu'au bout. Oui. Parce que non seulement 28 personnes sont mortes des faits qui nous occupent, il y a de très nombreux blessés, des gens et des familles qui souffrent encore dans leur chair et dans leur morale, je dis, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et puis surtout, il y a tout un pays qui, derrière tout ça, a été complètement ébranlé, parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. On ne s'est pas donné d'explication par rapport aux faits. On va vous parler de prédateurs, et c'est possible, comme on vous parlera aussi de terrorisme, d'extrême droite et d'organisations criminelles. Et tout est envisagé. On a un peu toutes sortes de criminalités dans le cadre de cette affaire. Et donc, tout un pays, derrière tout ça, est complètement ébranlé. Et donc, en ma qualité, évidemment, de juge d'instruction qui tente de soigner des blessés, des victimes... et en ma qualité de citoyen, je veux absolument connaître la vérité et je voudrais vraiment mettre un mot derrière tout ça, oui.
Bien sûr. Et vous avez l'été dernier, au début du mois de juin, je crois, lancé d'ailleurs un appel à témoins sur RTL Télé et sur la RTBF, la Radio Nationale Belge.
Oui, c'est exact. En fait, je suis en charge de ce dossier seulement depuis un an et demi. Et mon premier devoir, je vais dire, prescrit dans le cadre de cette affaire, était de revoir le dossier à la lumière du dernier fait.
Oui.
Et donc, avec l'enquêteur principal, M. Vos, qui est à mes côtés, on a décidé de retourner un peu la lorgnette et de vérifier pourquoi ils avaient en fait terminé les faits qui nous occupent, comment ce qui s'était passé là-bas lors du dernier fait de Alost.
Oui.
Et on s'est vraiment attaché à ce dernier fait. Et on trouvait que la meilleure façon, c'était de le faire avec l'aide de la presse, parce que ça donne un œil nouveau, ça permet à des intervenants, autres journalistes et figurants et autres, de revoir ce dossier. Ça nous permet à nous de le réétudier de nouveau et encore avec l'aide d'autres personnes. Et ça permet également à toute la population de réagir par rapport à ça. Alors ça nous donne deux choses. D'abord, le fait que la population est encore terriblement émue, ébranlée, soucieuse de savoir ce qu'il s'est passé. On a plus de 600 appels qui nous ont été envoyés. quartier. Et deuxièmement, on voit aussi à quel point nous, on a encore des choses à faire. La police scientifique a évolué, on a encore des témoins qui nous donnent certaines pistes. Et donc, on y croit encore. On a ressorti à l'occasion de ce reportage un portrait robot nouveau qui est donné par quelqu'un qui aurait indirectement vu les auteurs et non pas un témoin direct des faits. Mmh. Et ce témoignage et ce portrait robot est très important pour nous. Et dès lors, on a vraiment beaucoup d'optimisme. Et si on y arrive, je pense que c'est grâce à cette émission notamment.
Ouais. Alors, surtout que les membres de ce commando agissaient souvent à visage découvert, mais l'un d'entre eux, en tout cas, pouvait difficilement passer inaperçu. On l'appelait d'ailleurs le géant, hein, je crois. Et il s'agit d'ailleurs de la dernière attaque. Hein.
Oui, il y a le géant, le vieux, le tueur. Il y a plusieurs formules, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs profils qui ont été dégagés par rapport au portrait robot et au témoignage. Oui, en effet, vous avez raison. Il y a notamment un géant, enfin quelqu'un de grande taille.
De grande taille, donc qui est censé passer difficilement inaperçu. Alors, avant de prendre M. Voss, je voudrais continuer quelques instants avec vous, Mme Michel. Près de 600 personnes, dites-vous, ont réagi. Ça veut dire que 25 ans après les faits, la mémoire peut encore fonctionner, la mémoire des témoins éventuels peut encore fonctionner. Quelle est la proportion par rapport à ces 600 appels d'investigations concrètes et de témoignages que vous avez considérés comme fiables ?
Alors donc actuellement je peux vous faire un bilan en disant que bon il y a un gros tiers de ces témoignages qui sont peu vraisemblables, je vais les appeler farfelus. Il y a un autre tiers qui correspond à des pistes que nous avons déjà développées, déjà sur lesquelles nous avons déjà travaillé et donc qui sont peut-être surabondants, qui reviennent un peu dire les mêmes choses. Et puis une dernière partie dans laquelle les témoignages sont nouveaux. Alors il y a des témoins qui se manifestent à nouveau et qui ont vu des choses qui sont peu intéressantes mais que nous prenons en considération parce que ça conforte ou ça infirme certaines choses qu'on pensait. Et ce que j'espérais toujours, évidemment, et peut-être en a-t-on aussi, mais ça je vais pas vous en dire plus, ce sont que les personnes qui ont fait les faits ou qui sont dans l'entourage ou dans l'entourage des auteurs ou dans la périphérie ou qui ont participé à quelque chose de moins grave que de vraiment monter sur le coup et de tuer des personnes. Donc je parle des vols de voitures, je parle de fournir des armes, je parle de fournir des éléments qui permettent de commettre les faits. Je crois que ces gens-là peuvent aussi un jour se manifester et que le temps joue en notre faveur. À l'époque, il y a 25 ans, ces gens n'auraient pas pu se manifester parce qu'ils étaient en contact avec les tueurs, qu'ils étaient proches d'eux pour des raisons familiales, sociales, professionnelles. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, ils sont peut-être complètement dégagés de cela.
Et les langues
ils peuvent
peut-être
nous parler.
Ouais, bien sûr.
Il faudra peut-être le rappeler aussi, Mme Michel.
Marc-Mette de Penningen du soir de Bruxelles.
On peut aussi en profiter pour rappeler que d'importantes récompenses sont prévues, tant par la justice belge, je crois qu'il y a 250 000 euros qui sont promis, que par la société Deleuze, dont les magasins furent principalement attaqués, et qui a provisionné, je crois, 750 000 euros indexés maintenant. Ça doit faire une belle somme pour qui voudrait parler, voudrait communiquer des informations réelles.
Deleuze l'a répété lors de l'émission de télévision, ils offrent 250 000 euros à tout qui donnera une information permettant l'arrestation des tueurs. Ça, c'est une première chose. Et l'État belge, là, je ne donnerai pas de chiffres parce que ce n'est pas de mon ressort, mais c'est exact que l'État belge a également et pourra toujours via le système et la loi sur les méthodes particulières et les indicateurs, fournir également une somme d'argent. Mais là, il n'y a pas de chiffre. Hein. Je veux dire, là, c'est quelque chose qui se négocie directement avec les autorités judiciaires et policières. Le juge d'instruction n'a normalement rien à voir là-dedans. Mais c'est clair que ça peut se faire aussi en supplément de la prime tout à fait privée que Deleuze offre et a répété encore lors de l'émission de télé au mois de juin. Donc ça, c'est exact.
Madame Michel, je vous propose de vous rester en ligne. On va faire une pause. Dans un instant, on va prendre en ligne Eddy Voss, donc le chef de la cellule d'enquête Brabant-Wallon. Et puis on reviendra à vous pour que vous nous disiez ce que vous espérez éventuellement de la piste française.
D'accord.
À tout de suite.
14h-15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Les tueurs fous du Brabant, on va faire le point sur l'enquête dans un tout petit instant. On va retourner à Charleroi pour retrouver le commissaire Eddy Voss, qui est le chef de la cellule d'enquête de Brabant-Wallon. Mais auparavant, un mot avec Brendan Kemet. Vous me disiez, en micro, vous reveniez sur l'affaire de Maubeuge, donc par laquelle tout a commencé finalement. Il y a des hypothèses qui ont été émises à propos de ce qui a étonné les enquêteurs.
C'est vraiment une affaire très très curieuse parce que c'est vrai, le début de cette vague belge en fait, qui commence en France. Mais c'est très étonnant parce que c'est une épicerie fine. qui est braquée, enfin cambriolée au départ en pleine nuit.
Ouais.
Elle est à 100 mètres du commissariat de Maubeuge. Il y a un appel anonyme qui est lancé, qui est un appel au 17 et qui fait intervenir les policiers et qui sont vraiment canardés à l'arrivée. Ouais. Et les policiers ont eu le sentiment que c'était peut-être une sorte d'entraînement,
une répétition,
voilà, quelque chose d'assez, d'assez préparé. D'autant plus qu'eux ne s'attendaient absolument pas à voir ce type de braqueur en face d'eux, ouais. Puisque on est dans une ville de criminalité assez moyenne, pas du tout quand même de grand banditisme. Mmh. Et l'autre chose très troublante, c'est qu'il y a eu des recherches très importantes pour retrouver l'auteur de cet appel au 17. À l'époque, il n'y avait pas de
système. On ne pouvait pas retracer, la traçabilité était difficile.
On ne repérait pas les appels, ils ne s'affichaient pas, mais... Ouais. Et ça a été impossible en fait. La personne qui a appelé était forcément quelqu'un qui avait une vue directe sur la scène de cambriolage. Et malgré vraiment une enquête de voisinage très importante, elle n'a jamais été retrouvée.
D'où l'idée de se dire que peut-être ils avaient appelé volontairement la police pour s'entraîner.
C'est l'hypothèse que ce soit eux. Ouais.
Alors, il fallait parler de ça, puisque maintenant on va parler de cette enquête. Bonjour monsieur le commissaire.
Oui, bonjour.
Et merci aussi d'avoir pris un peu de temps pour revenir sur cette enquête.
Je vous en prie.
Alors, avant de parler de la piste française, quel bilan on peut faire de toutes ces années d'enquête ?
Disons que dire qu'il n'y a rien dans le dossier, ce serait mentir, c'est impossible. Après donc tant d'années d'enquête, on a été jusqu'à une centaine de personnes d'enquêteurs il y a 5-6 ans de là. Donc il n'y a rien. Mais il y a une grande différence entre une vérité journalistique, je dirais, et donc une vérité judiciaire. Donc nous, il nous faut donc...
C'est pas le même temps, le même tempo.
On va avec des personnes donc, et avec des preuves en assises et pas avec des théories.
Bien sûr. Alors justement, des preuves... À un moment, on a cru que la police belge avait arrêté un certain nombre de membres de cette bande.
Ces gens-là, c'est donc la filière Borène dont vous parlez. Elle a été acquittée donc, par les assises, donc dès lors et de facto, cette bande est innocente.
On ne peut plus y revenir, bien sûr. Vous avez dans les pièces à conviction qui sont restées, parce que la police scientifique, Madame Michel nous le faisait remarquer, a fait des progrès considérables depuis. Est-ce qu'il y a encore des pièces dont vous espérez peut-être qu'elles puissent parler au sens scientifique du terme ?
Oui, absolument. Donc tous les jours, on amène encore des pièces qu'on est estimé non utilisable il y a quelques années, mais entre-temps la technique est nettement plus performante et on parvient même à sortir des ADN. D'ailleurs, ce n'est pas un secret, il y a 2-3 ADN, donc profils d'ADN qui sont sortis assez il y a quelques mois ou il y a quelques semaines même.
Ouais. Et alors cette piste française alors ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Oui, on en a parlé beaucoup, mais les faits tels que vous l'avez d'ailleurs expliqué, les faits commencent à Maubeuge, c'est que même en France, on a mis des plaques françaises ici en Belgique pour commettre l'attaque sur une armurerie. On a également posé plus que probable des plaques françaises sur d'autres véhicules utilisés. Il y a l'accent des auteurs. Et
Il s'exprimait en français, en pays flamand, par exemple.
Oui, il y en a un qui sait parler le français et le néerlandais sans aucun accent. Pour le reste, tous les auteurs sont exprimés en français.
En français, oui.
Il y a eu deux commissions parlementaires. La deuxième commission parlementaire nous a demandé de vérifier toutes les bandes de truands qui étaient actifs au moment de nos faits, aussi bien dans le nord de la France qu'en Belgique. Et il y avait pas mal de bandes françaises qui étaient actives dans le milieu, notamment de la prostitution et autres, à Bruxelles. Mm-hmm. Et c'est pour ça aussi qu'on a travaillé énormément avec notre collègue M. Speck de la PJ de Lille.
Oui. Alors on va voir M. Speck au téléphone dans un instant, mais là je reviens sur ce que vous disiez, on fait de la police avec des preuves et des indices matériels et pas avec des théories. Là, je suis d'accord. Mais quand même, il y a une question qui se pose. Et est-ce que les enquêteurs ont été aussi étonnés que les journalistes ou le grand public d'apprendre que souvent, il y avait une extrême violence dans ces attaques pour des butins qui semblaient pas à la hauteur des risques pris et des conséquences pour les victimes ?
Il y a plein de théories, il y a énormément d'hypothèses dans les faits Brabant-Wallon et dans l'enquête. Je n'en vois pas d'ailleurs ce qu'on pourrait encore inventer. On dit c'est l'extrême violence, ça c'est vrai, et que le butin est parfois peu, mais est-ce que les auteurs n'espéraient pas en prendre plus ? Et encore une fois, des hypothèses, c'est la raquette. Alors, pour la raquette,
ouais, c'est ça,
plus
c'est...
qu'il y a la violence, au plus qu'on peut demander. Voilà.
Mmh. Là, peut-être que Marc-Mette de Penningen peut nous dire ça. C'est ce qu'on a pensé, puisqu'il y avait certains... La même enseigne a été attaquée à plusieurs reprises, c'est ça?
Oui, ça fait partie des théories, ouais. Mais d'autres...
Ouais. Oui, mais d'autres aussi. Hein.
Oui. Ouais. Exactement. D'autres supermarchés ont connu le même sort. Et puis, une infinité de petits commerces qui n'avaient rien à voir, aucun lien organique ou autre, ni de voisinage avec les fameux magasins de l'Est. Magasins de l'Est qui font l'objet, qui sont la cible essentiellement de la deuxième vague des attaques qui démarre le 27 septembre 1985 pour s'interrompre tout aussi subitement le 9 novembre 1985. Voilà. Et c'est là qu'il y a ces massacres, cette masse de gens qui se font, qui se font tuer. Plus de la moitié des gens se font tuer pendant cette période.
Ouais. Il y a combien de personnes sur le terrain, Monsieur Voss, actuellement ?
Actuellement, 12.
Ouais. Donc c'est un travail à plein temps, quoi. Pour c'est une cellule qui travaille vraiment.
Absolument. Et on peut donc, on fait partie donc de la section homicide. Donc si on a besoin donc de renfort, il n'y a aucun problème. Hein. Donc les collègues sont là pour nous aider.
Et vous avez un site internet ? Pour recueillir des informations.
On a donc certainement donc via. Il y a le numéro de téléphone qui est affiché, il y a donc même le numéro de GSM si je me trompe, mais il y a donc un site, il y a tout. Donc,
on donnera tout à l'heure, on donnera ces renseignements à ceux qui nous écoutent. Je vous remercie beaucoup, et je reviens vers Madame Michel dans un petit instant, mais on va faire un détour par Lille d'abord, après cette pause.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors on va à Lille dans un instant. Brendan Kemet a des choses à nous dire sur les liens éventuels entre le milieu du grand banditisme en fait en France et un certain nombre d'actions qu'on a attribuées au tueur du Brabant. Et on va libérer Madame Martine Michel. Je rappelle, vous êtes Madame la juge d'instruction en charge de cette affaire. Vous nous avez expliqué les appels que vous avez lancés, les espoirs que vous formuliez donc sur cette piste française. Je sais que vous avez une réunion après, que vous l'avez interrompue d'ailleurs pour participer à cette émission. Simplement, comment voyez-vous les choses dans les mois qui viennent ? Vous pensez que c'est la prescription, c'est 2015, hein ?
2015, oui, tout à fait.
Ouais. Donc là, c'est vraiment vous tirez, si j'ose dire, enfin vous, collectivement, les dernières cartouches sur cette affaire.
Oui, c'est exact. 5 ans, c'est évidemment très très peu de temps pour un tel dossier. D'autant plus que si on veut que le dossier aboutisse à une condamnation, il y a évidemment toutes les années de procédure qui iront avec les suites de notre enquête. À supposer qu'on aboutisse et qu'on arrive à interpeller certaines personnes. Mais en effet, c'est peu de temps. Il faut savoir quand même qu'une des parties civiles réinsiste auprès du ministre de la Justice pour que cette affaire soit imprescriptible. Donc voilà. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, en 2015, c'est prescrit.
D'accord. Est-ce que c'est bien cbw.be le site
cbw@killersbrabant.be.
Killersbrabant, donc en un seul mot.
Tout à fait, oui.
.be. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, madame. Merci infiniment.
Je vous remercie aussi. Au revoir.
Et tout de suite, on va à Lille rejoindre Joël Speck, donc qui dirige la PJ de cette ville. Bonjour, Monsieur Speck.
Bonjour.
Alors, je rappelle, vous êtes commissaire divisionnaire, donc et chef de cette police judiciaire de Lille. Qu'est-ce que vous pensez de cette piste française ? Vous avez été associé, bien sûr, je suppose, par vos collègues de la police belge. Vous avez été un des premiers à savoir qu'il y avait une piste française, j'imagine.
Oui, bien sûr. La police judiciaire, d'ailleurs, avait été saisie des faits de Maubeuge pour l'enquête. Bon, là, j'ai pas participé. Mais depuis la fin des années 80 et les années 90, cette piste française est réapparue assez régulièrement. En fait, elle tourne autour d'un personnage central que je vais appeler Jean-Pierre, c'était son surnom, qui lui avait été mis en place par le milieu corse niçois de l'époque et qui était sur l'île et qui avait dirigé tout le réseau de la prostitution sur l'île dans les années 78. Mais ce Jean-Pierre a été incarcéré jusqu'en 84. Donc on peut l'exclure de la première série. Ouais. Là, il a un alibi irréfutable. Quoi. Ouais. Donc, de 84 à 86, ce Jean-Pierre, effectivement, va rejoindre le milieu du banditisme belge, mais va aussi commettre des faits en France, des séries de braquages en France avec une équipe française. Mmh. Et d'ailleurs, alors braquage que je vais qualifier de propre, quoi. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'acte de violence, comme on les a rencontrés dans les tueries du Brabant wallon. Ouais. Jean-Pierre va être récupéré en 86, d'ailleurs sur Bruxelles, va être extradé vers la France et va s'évader peu de temps après de la prison d'Haguenau. Et ensuite, on sait parfaitement policièrement, autant les Belges que nous, qu'il a rejoint l'équipe Amers, qui en 89 enlèvera l'ex-premier ministre belge Van den Boeynant. Donc il a fait partie effectivement du milieu du banditisme, du banditisme belge.
Mais on ne peut pas lui attribuer les actions attribuées au tueur fou, ceux qu'on appelait les tueurs du Brabant.
Bah, au moins pour la première série. Alors bon, après certains membres de son équipe, des Français qu'on a ciblés, certains pouvaient être sur la première série, mais pas sur la deuxième série.
Ouais. Et dites-moi, excusez-moi commissaire, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de remontée d'informations des indicateurs, enfin du milieu classique qui quelquefois peut ouvrir des pistes aux policiers, est-ce que c'est pas le signe justement qu'il faut chercher ailleurs dans une autre mouvance?
Ce serait un peu mon sentiment, quoi. De toute façon, mon sentiment à moi, enfin, c'est subjectif, mais je vois mal ce Jean-Pierre ou ceux qui l'entouraient être les instigateurs de ces faits. Ouais. Alors maintenant, ils ont pu approcher à un moment donné les tueurs du Brabant wallon. Je ne connais pas par cœur, moi, le dossier que traite Eddy Voss, mais je les vois mal. Eux, c'était quand même une délinquance de profit, quoi. C'était prendre un maximum d'argent, que ce soit dans le domaine de la prostitution, des braquages, et puis échapper à la justice, donc se faire remarquer le moins possible. Il n'y avait aucune idéologie dans leurs actes criminels, quoi.
Mais enfin, cela dit, donc, vous êtes un peu, j'allais dire, l'arme au pied, au cas où un certain nombre d'informations arriveraient par le biais de ces appels à témoins en Belgique pour continuer, quoi.
Bien sûr, récemment, des actes, des demandes d'entraide judiciaire ont été faites vers la France, et nous les avons exécutées. Aussi, beaucoup de protagonistes dans les noms cités sont décédés. Jean-Pierre, il est semble acquis policièrement qu'il était victime d'un règlement de compte dans les années 88 sur la Belgique. Ouais. Donc lui ne pourra plus, a priori, nous apporter d'explications sur les tueurs du Brabant wallon.
Ouais. Je crois que Marc Mette de Penningen a une question à vous poser.
Oui, commissaire, vous ne croyez pas qu'il est quand même étrange que des tueurs qui seraient issus du milieu marseillais, de nord de la France, voire même bruxellois, se permettent de tueries de cette ampleur, dès lors qu'ils savent pertinemment que ça va provoquer des coups de pied dans la fourmilière donnée par la police, que ça va gêner leur business habituel en matière de prostitution, de trafic de drogue, etc. Et donc ils prennent un double risque, non seulement de se faire attraper sur les faits, mais également de voir leur industrie habituelle, disons, être mise en danger.
Oui, c'est ce que je viens de dire. Ce n'était pas du tout dans leurs intérêts criminels de l'époque de faire attirer l'attention des services de police, soit belges, soit français, sur leurs activités criminelles. Ça, c'est évident.
Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce point avec nous, commissaire Speck. Merci infiniment. On va faire une pause et on va revenir justement sur les autres hypothèses qu'on peut envisager sur l'identité des tueurs fous du Brabant.
14h-15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
On va évoquer pour terminer cette émission les hypothèses qui ont été émises. Tout à l'heure, on entendait Marc Mette de Penningen parler des cellules communistes combattantes, les CCC. Donc, il y avait l'idée que peut-être des mouvements d'extrême gauche voulaient déstabiliser l'État belge. Mais en fait, on a vraiment été aux deux extrêmes de l'échiquier politique, puisqu'il y a eu aussi la théorie du complot d'extrême droite. Et cette théorie du complot d'extrême droite est revenue à la surface en 1990. Et on a trouvé dans les archives d'RTL l'extrait d'un journal qui était présenté par Jacques Esnoux, c'est le 7 juin 1990, avec une intervention d'Alain Hamon. Écoutons et on en parle après.
Il est 7h30. Jacques Esnoux,
Les tueurs fous du Brabant étaient sans doute plus terroristes que fous. Ces commandos qui, pendant 4 ans, ont attaqué en Belgique des supermarchés, tuant au passage 28 personnes, dont plusieurs enfants, étaient peut-être les instruments armés d'un complot politique. Ce n'est pas la première fois qu'une telle hypothèse est avancée, mais maintenant la justice belge a en main des éléments concrets. Les policiers, en perquisitionnant chez l'oncle du baron Benoît de Bonvoisin, un homme d'affaires soupçonné d'être le financier de l'extrême droite belge, ont trouvé une liste de 8 noms de gendarmes. Alain Hamon.
Depuis 2 ans, les magistrats se doutaient qu'un groupe fasciste avait infiltré la gendarmerie royale. Baptisé Groupe G, ces hommes étaient en relation avec le Front de la Jeunesse. Pourtant, rien ne faisait le lien définitif avec les tueurs du Brabant wallon. Et voilà qu'en perquisitionnant le domicile du tonton du baron, la police récupère les noms de ceux qui constituaient le noyau de base de ce groupuscule réactionnaire, le mémoire rappelant la constitution de ce cartel et une ébauche de plan d'action. Le premier jet d'une stratégie de la tension. Ce document date de 1977 et il prévoit l'attaque aveugle de supermarchés en Belgique. Or, les premiers assassinats des tueurs fous commenceront 2 ans plus tard. De plus, au moins 2 des gendarmes désignés dans le listing sont en prison à l'heure actuelle, soupçonnés d'avoir eu des liens avec les meurtriers. Enfin, 3 autres avaient été associés aux enquêtes de la cellule spéciale créée pour élucider l'affaire, une façon comme une autre de manipuler les investigations.
Alors, rappelons que ce qu'on vient d'entendre date du 7 juin 1990 et qu'on est en 2010 et on n'a toujours pas conclu.
Hein. Beaucoup de données passées sous les ponts.
Oui, absolument. Et beaucoup d'hypothèses ont été passées en revue. Alors, il nous reste, il faut regarder la réalité en face, il nous reste 3 minutes. Brennan Kemet et Mark Met de Penningen, je vous demandais simplement votre sentiment. Alors, par rapport à Brennan Kemet, par rapport à la pègre, l'implication éventuelle de la pègre française, vous y croyez pas ?
Ça paraît un peu étrange, effectivement, la violence. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des relations très suivies, et toujours aujourd'hui, entre le milieu belge et le milieu français, et des marchés communs, hein, déjà, sur les armes, les stupéfiants, la prostitution.
D'accord. Vous espérez que cette piste française débouche vous espérez. Vous n'êtes pas là pour espérer, mais pour constater, pour raconter. Mais...
Non, mais elle est intéressante parce qu'elle n'a pas été beaucoup évoquée.
C'est vrai. Voilà. Donc, ça, c'est. La dernière peut-être piste, à moins que Mark Met de Penningen ait d'autres idées.
Je crois que la chance de maintenant, c'est évidemment que l'Europe de la justice n'est pas ce qu'elle était dans les années 80, que tout devient plus facile, que les moyens techniques évidemment se sont fortement améliorés, que l'entente policière est bien plus efficace que dans le passé. Donc là, il y a peut-être une solution européenne de sortie de ce mystère.
Oui, mais bon, vous suivez beaucoup d'affaires criminelles pour votre journal. Vous avez donc une mémoire de tout ça. C'est quand même une histoire exceptionnelle, celle-là.
Elle est exceptionnelle parce qu'elle reste mystérieux.
Pas d'informations.
Personne ne parle. Il n'y a pas une maîtresse, il n'y a pas une épouse, il n'y a pas un enfant, il n'y a pas un parent repentant.
Une méthode classique d'enquête se casse les dents, quoi.
Exactement. Ouais. Et pour une multiplicité d'affaires, c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que rien ne filtre, absolument rien, comme si la cloche du secret avait été imposée, mise dessus. Peut-être a-t-on liquidé les auteurs, on n'en sait rien, c'était encore de pures hypothèses, évidemment. Ouais.
Là, juste encore un mot. Tout à l'heure, le commissaire Vos disait ce que je lui disais, mais à un moment, on a cru qu'on avait arrêté un certain nombre de membres, et il nous faisait remarquer, à juste titre, que la justice a innocenté ces gens-là. Mais vous êtes peut-être plus libre que le commissaire Vos pour en parler.
Dont l'un était d'ailleurs en français. Pour l'anecdote, on avait déplacé la borne frontière pour pouvoir l'arrêter, lui faisant croire qu'il était...
Attendez, je ne comprends pas. On avait déplacé une borne frontière.
Il habitait sur la frontière franco-belge, mais côté français.
Oui.
Et donc, les policiers, mais ils l'ont toujours nié, ont déplacé momentanément la borne frontière pour lui dire « Écoute mon gars, t'es en Belgique, donc tu es cuit. » Donc il y avait déjà une piste française à ce moment-là et il s'appelait Vittorio, on peut citer son
prénom.
Il a été quand même condamné pour une série de braquages de magasins, etc. Et pour ce qui concerne Maubeuge, son épouse tenait elle-même une épicerie. Il y a eu une hypothèse à l'époque comme quoi le cambriolage de l'épicerie Pio à Maubeuge, c'était pour alimenter l'épicerie de son épouse, mais ça n'a jamais été démontré formellement.
Voilà. Il ne reste plus qu'à attendre, donc, et on va se tenir informé, bien entendu, des suites des appels lancés par Mme Martine Michel, qu'on remercie encore une fois d'avoir participé à cette émission. Merci, Brennan Kemet. Merci et bon retour à Bruxelles.
Merci.
L'heure du crime sur RTL.